Napoléon, légende et vérité. Un feuilleton radiophonique hebdomadaire d'après le livre d'Henri Guillemin. Adaptation et voix, Stéphane Verru. Une coproduction compagnie avec Vue sur la mer, Radio PFM. Avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. 31e épisode.
Ah ! La Banque de France. La banque en formation, Bonaparte a consenti. Consenti n'est pas le mot juste, car Bonaparte était là pour ça. Il remplissait le contrat qui lui avait valu son ascension. Disons plutôt que Bonaparte l'a autorisé à s'intituler Banque de France, ce qui faisait très national, afin de donner le change à l'opinion et afin de faire croire aux Français que cet établissement de finances était leur banque à eux, la banque au service de la France. Or, il s'agissait d'une maison privée, pareille aux autres, mais dotée, par sa grâce, d'une enseigne frauduleuse. Il s'agissait d'une association d'affairistes qui allait pouvoir se procurer ainsi des bénéfices sans précédent. Cabanis, le philosophe voltairien, l'un des notables choisis pour former la commission de constitution, avait eu, en séance, dès novembre 1799, les propos les plus limpides. Il avait déclaré que, dans l'ordre des finances, il fallait veiller à ne point contrarier l'opinion des capitalistes, mais entrer dans leur vue. Soyons francs, avait-il dit, reconnaissons que nous sommes dans la main, sic, d'hommes qui n'ont pas toujours des intérêts conformes à ceux de la chose publique. Regrettable peut-être, mais c'est un fait. Nous ne pouvons rien sans leur accord. Bonaparte est d'une docilité exemplaire à l'égard des banquiers qui viennent non pas lui soumettre un projet, mais réclamer leur dû, c'est-à-dire obtenir le geste qu'ils exigent, le geste officiel mais obligatoire d'un individu payé d'avance, et qui n'est assis dans ce fauteuil suprême que parce que ces messieurs l'y ont mis. L'historiographe de la maison, Gabriel Ramon, qui publia en 1929 son travail en forme d'hymne, après avoir, selon l'usage, salué Napoléon le Grand et célébré la Banque de France comme l'une des institutions fondamentales de son prodigieux empire, ne manque pas de signaler toutefois que l'établissement, de par ses statuts, était entièrement hors de la dépendance du gouvernement. Reportons-nous aux pièces originales, car rien ne remplace en histoire sérieuse le recours aux sources. Le papier que le banquier Perregaux, le 6 février 1800, placé pour signature sous les yeux de Bonaparte, est précédé d'un si beau prélude qu'il serait dommage de le laisser enseveli dans des ouvrages d'accès difficiles. C'est du style grandiose. Celui qui a contribué si puissamment à nous rendre avec éclat le caractère d'une nation guerrière, il lui appartient de faire connaître que cette nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. L'intérêt privé et l'intérêt public concourent, poursuit Perregaux, à recommander le succès de l'établissement projeté. Libre par sa création qui n'appartient qu'à des particuliers, voilà qui est clair, la banque ne négocie avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontre ses convenances et le complément de ses sûretés. Elle n'est et ne tolérerait d'être à aucun degré une banque gouvernementale.
C'est la vérité qui est coupable. Maximilien Robespierre. Napoléon, légende et vérité, d'Henri Guillemin, a été réédité en 2005 aux éditions Utovie.